Radio Kapi. Il est 18h à Kinshasa, 19h à Goma, au Nord Kivu. Voici les titres du journal Vespéral. Le chef de l'État congolais a été investi ce mercredi après-midi à Kinshasa, président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Félix Tshisekedi s'est engagé à la matérialisation des objectifs primordiaux de la SADC, dont l'intégration économique et l'élimination de la pauvreté dans la sous-région. Nord Kivu, les déplacés de guerre, de retour ou hébergés sur le site de Kanyarushinya, en territoire de Nyiragongo, demandent d'être délocalisés. Ceci entre autres à cause de la promiscuité et des accidents récurrents dont leurs enfants sont victimes près du site. L'invité de ce journal est le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Manya Mubonge annonce que ce projet démarre probablement en janvier 2023 pour une durée de 7 ans dans 3 provinces, notamment le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 42e sommet ordinaire de la SADC a investi ce mercredi en fin d'après-midi à Kinshasa le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Lors de son allocution durant la cérémonie solennelle d'ouverture, Félix Tshisekedi s'est engagé à la matérialisation des objectifs primordiaux de la communauté, dont l'intégration économique et l'élimination de la pauvreté dans la région. Suivez plutôt un extrait de cette allocution sur les engagements de la présidence de la RDC que nous propose Billy Van Lutumba.
Durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC. Je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable, et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement. Je compte donc sur votre soutien, combien appréciable, que vous apporterez au gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'accomplissement de cette lourde charge devant lui permettre de réaliser les objectifs du programme d'intégration régionale au cours de sa présidence.
Et parmi les chefs d'État présents à ces assises, le président de la Zambie a déclaré que sans la paix et la sécurité dans la sous-région, toutes les projections faites au cours de ce sommet seront vaines. Hakainde Hichilema a appelé ainsi les pays de la SADC à soutenir la RDC qui est agressée par le Rwanda. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Voilà, je voulais profiter de cette occasion pour dire que sans la paix, la sécurité, la stabilité, toutes les projections que nous pouvons faire de ces sommets, en tout cas, cela aboutira à rien. En tout cas, nous devons appuyer la République démocratique du Congo pour sa stabilité, sa paix. Et ça va nous permettre d'arriver à implémenter tous nos projets de l'énergie, de l'eau, de la croissance économique. C'est très, très important. Et parfois, nous, la SADC, on essaye un peu de le reléguer au second plan, l'agression à l'est de la RDC. Cela signifie en clair, en tout cas, évoluons ensemble, progressons ensemble. Et c'est dans cette optique que nous arriverons à libérer notre région. Et on a gagné l'attention au cours de plusieurs années de plusieurs pays membres de la SADC. Et s'il vous plaît, continuons à travailler ensemble. En tout cas, on ne va rien perdre dans notre quête de travailler ensemble et de vivre ensemble. En tout cas, au-delà du fait que nous soyons membres de la SADC, on a un seul objectif, la sécurité. Notre droit en vue du développement, les opportunités de développement.
Dans la province de l'Ituri, en bref, 7 morts dont un rebelle de l'ADF, plusieurs maisons incendiées, c'est les bilans en cours provisoire de l'attaque d'hier mardi de ces rebelles à Nindulo, dans le centre commercial de Loloa, sur le tronçon Commande à Mambasa. D'après des sources locales, les victimes sont des autochtones qui revenaient de leur champ. Les FARDC sont intervenus Pour repousser les assaillants, les échanges de tirs ont duré plusieurs heures. Au moins 5 villages autour de ce centre commercial sont presque vidés de leurs habitants. Cependant, des sources militaires n'ont pas encore confirmé le fait. Nord Kivu, les déplacés de guerre des Rutshuru, hébergés sur le site de Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, demandent d'être délocalisés. Ceci à cause de la promiscuité et des accidents récurrents dont leurs enfants sont victimes près du site. Le président de ce site dit avoir enregistré 12 cas d'accidents impliquant majoritairement des enfants depuis leur arrivée en juin dernier. À cela s'ajoute le manque d'assistance humanitaire et les conditions inhumaines auxquelles ils sont soumis. Théo Moussekoura lance NSOS au gouvernement et aux ONG humanitaires afin d'intervenir.
Nous sommes dans des sites différents, dans des églises et dans des écoles. Nous voulons à ce que nous puissions quitter les écoles car demain ou après-demain, c'est notre rentrée scolaire. Et voilà que nous confrontons beaucoup d'accidents. Nous n'avons pas même d'assistance, de vivres et non-vivres, pas même d'eau. Et voilà que nous continuons toujours à souffrir. Dès notre arrivée, le mois de juin, nous avons déjà enregistré 12 cas d'accidents et nous avons déjà enregistré 5 cas de mort. Nous continuons toujours à supplier les gouvernements et les ONG de venir intervenir, surtout sur notre problème, qu'ils cherchent les moyens possibles pour trouver là où nous devons construire, pour éviter les accidents et pour éviter les condamnements de gens dans des églises et écoles. Le nécessaire est que le gouvernement termine la guerre et que nous puissions rentrer chez nous pour continuer notre vie quotidienne.
Notez que près de 2700 ménages des groupements de Djomba, Kisigari et Bweza ont fui leur village depuis bientôt 3 mois. Ils sont répartis dans 23 sites, écoles et églises, notamment dans les territoires de Nyiragongo. Et dans les territoires de Manono, en province de Tanganyika, la population dénonce les tracasseries au niveau des différentes barrières érigées par des éléments des FARDC. Chaque passage est conditionné par le paiement d'une somme d'argent. C'est notamment sur l'axe Kanteba vers Kakwela, dénoncé par le chef de la chefferie des Bakongolo. Un motard sans bagage paye 2000 francs congolais et avec bagage paye 5000 francs congolais. On écoute le coordonnateur provincial de la société civile, Force Vive de Manono, l'abbé Moïse Kilouba, a été joint par Paul Mounanga.
Il y a des barrières érigées dans les environs de la cité de Manono, par exemple dans l'axe Kanteba. Au sortir, disons, de la cité de Kanteba vers le village Kakeloa, à 5 km de Kanteba, il y a une barrière militaire. Et sur cette barrière, les piétons payent 1000 francs, et les vélocyclistes aussi 1000 francs. À 70 km d'Ankoro, dans le village Mpandangela, il y a une barrière érigée là-bas. Alors, quand vous arrivez sur la route Lubumbashi-Manono, vous trouvez aussi une barrière à Kisuji et le paiement, c'est la même chose. Alors, la population se trouve dans une grande difficulté et là, c'est un cri d'alarme auprès du gouvernement provincial pour que ces barrières soient levées.
Et pour le commandant de FARDC à Manono, les militaires sont en position au niveau des postes d'observation. Il précise que cette entité est une zone rouge et les éléments se positionnent contre d'éventuelles incursions des Mai Mai. Cependant, il permet de vérifier toutes ces allégations. Au Kasaï, le gouvernement provincial interdit l'exportation de maïs et du manioc de Tchikapa vers d'autres provinces. Cette décision annoncée par le ministre provincial de l'Agriculture fait suite à la flambée des prix des denrées alimentaires, dont les maïs, dans ce coin du pays. Diallo Meba a également annoncé l'allègement des taxes à l'entrée des produits agricoles dans la ville. Le détail avec François Kadima.
Depuis quelques semaines, le prix des produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur à Tchikapa au Kasaï. Le seau de maïs, qui s'est négocié à 12 000 francs congolais, est passé à 20 000 francs congolais. Cette situation est liée aux perturbations de l'une des saisons culturelles avec des pluies qui n'ont pas permis une grande production, mais aussi l'exportation des sacs de maïs vers Kinshasa par les commerçants suite à la forte demande sur le marché. Pour permettre à la population de Tchikapa de consommer la quantité produite localement, le gouvernement du Kasaï a décidé d'interdire l'exportation. Diallo Meba est le ministre provincial de l'Agriculture. l'agriculture.
Le comité des conjonctures, dont moi-même je suis président, a décidé de ne plus laisser sortir les maïs de notre province. À dater de ce jour, et les mesures seront communiquées par tous les postes que vous connaissez des sorties. Mais les gens de Dekese, Mueka, Luebo, et comme ils n'amènent pas ici, peuvent continuer à faire leurs activités comme par le passé.
D'autres mesures ont été prises également pour faire face à cette flambée de prix de produits alimentaires. C'est notamment les allègements fiscaux sur le produit. Pour permettre aussi l'entrée de maïs à Chikapa, le ministre Meba a également parlé d'une possibilité de construire la route du corridor nord qui permettra de faciliter l'arrivée de maïs de Mouika, Ilebo et Luebo. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et pendant ce temps, au Kwilu, les véhicules et motos ne savent plus où passer dans certaines communes de la ville de Kikwit. En cause, la ville est menacée par plus de 25 ravins en pleine progression. Plusieurs avenues sont déjà coupées. C'est le cas du boulevard Kanzombi et d'autres vont disparaître dans un futur proche. Le service urbain de la protection civile de Kikwit, qui a enquêté sur la situation en mai dernier, alerte que le pont Kwilu est sur le point de s'effondrer si rien n'est fait rapidement. Son coordonnateur Vladimir Kouzangela recommande entre autres la construction de bassins de rétention d'eau et le respect des normes urbanistiques pour lutter contre ces érosions. Plus d'explications avec Irène Beaumont.
Bientôt, le trafic sera coupé entre la ville de Kikwit et les territoires de Gungu, Djofa et Kayemba dans le Kwango ainsi que la province du Kasai. Le pont Kwilu qui les relie est menacé par les ravins OTT longs de 200 mètres. Si aucune mesure n'est prise en urgence, ce pont va s'écrouler. De l'autre côté, le boulevard Lumbidi menant vers l'hôpital de Kanzombi est impraticable car coupé par 3 ravins. La commune de Lukemi est la plus touchée. Elle compte 9 ravins et plusieurs de ses artères principales vont bientôt disparaître. La situation est encore compliquée dans la commune de Kazamba qui en a 8, empêchant ainsi la circulation des véhicules et des motos. Selon le coordonnateur urbain du service de protection civile de Kikwit, ces ravins sont causés par le manque de canalisation des eaux de pluie et la mauvaise urbanisation de la ville. Vladimir Kouzangela en appelle à la responsabilité des autorités compétentes.
Pensez à nous construire des caniveaux pour la canalisation d'eau de pluie, l'allocation des moyens financiers pour les cantonnages manuels, faire des bassins de rétention d'eau, qu'il établisse aussi un bon plan cadastral pour la ville.
Il appelle également chaque ménage de Kikwit à disposer d'un trou de rétention d'eau de pluie. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au sud Kivu, la régie des eaux Bukavu affirme enregistrer ces derniers temps une amélioration dans la desserte de l'eau potable. Situation attribuée à la nouvelle stratégie de gestion des réseaux de distribution en cette période de saison sèche. Pendant ce temps, la Régie des eaux Sud-Kivu continue à déplorer certaines pratiques de raccordement clandestin ou fraudulé. Valère Toumba Kayembe, directeur provincial de la Régie des eaux Sud-Kivu, s'exprime au micro d'Emmanuel et la Mejoua Kabedi.
Cette année, nous avions pensé protéger les débits de la rivière Murundu parce que souvent pendant la saison sèche, nous avons le moment maraîcher qui font souvent des irrigations, qui dévient la rivière pour pouvoir arroser leurs champs. Et nous avons pensé les doter des arrosoirs pour qu'ils ne puissent pas toucher à la rivière. Je vois que cette opération a payé parce que nous avons un débit suffisant pour produire de l'eau en quantité suffisante cette année ici. Au niveau de la distribution, on a installé un système de bypass qui nous permet d'allonger les aires de refoulement de l'eau au réseau. C'est ainsi que tous les coins qui étaient frappés de manque d'eau, pour certains, la plupart ont maintenant de l'eau. Mais cette fois-ci, c'est un peu regrettable. Nous enregistrons aussi des cas de vol d'eau dans la commune d'Ibanda. Nous venions découvrir des gens qui utilisent frauduleusement notre eau pour construire des grands immeubles, mais avec de l'eau volée à la Régie des eaux. Et nous continuons à déplorer cette situation à travers la ville de Bukavu.
Actualité internationale.
Au Liberia, sous pression, George Weah lâche ses proches sanctionnés par les États-Unis. C'est donc un coup de tonnerre dans ce pays, après la suspension hier mardi des 3 hauts fonctionnaires accusés de corruption dans un récent rapport. Les 3 hommes, dont le chef de cabinet du président George Weah, ont été sanctionnés lundi dernier par les États-Unis pour avoir sapé les institutions démocratiques au Liberia pour des intérêts personnels. George Weah, qui avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, a fini par sévir. Le Mali accuse la France d'armer les terroristes et saisit l'ONU. Ce pays est à nouveau à l'offensive contre la France, cette fois devant les Nations Unies. Alors que le retrait de la force Barkhane s'est achevé en début de semaine, le ministre malien des Affaires étrangères a écrit une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer des violations de l'espace aérien du Mali. Abdoulaye Diop accuse aussi l'armée française de soutien aux djihadistes.
L'invité.
L'invité de ce journal est le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Manya Mubonge note que ce projet démarre probablement en janvier 2023 pour une durée de 7 ans dans 3 provinces, notamment le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri. Manya Mubonge s'entretient avec Jean Kassami.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur le journaliste.
C'est quoi le projet de stabilisation et de relèvement de l'Est?
Le projet, c'est un projet de l'État congolais dont le financement est de la Banque mondiale. C'est pour venir aider le gouvernement de la RDC pour la paix, la sécurité et le développement au niveau des 3 provinces de l'Est, notamment la province de Sud Kivu, la province du Nord Kivu et la province de Rituri. Et cela, c'est à partir de 2021, quand le chef de l'État a décrété l'état de siège dans les 2 provinces. Et il a mis en place un programme de mobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale qu'on appelle le programme PDDRCS. Il faudrait qu'il y ait l'appui et c'est le projet vient en appui à ce programme pour aider à la démobilisation communautaire.
Et comment sera orientée cette aide-là?
L'aide est orientée par des individus vulnérables de la communauté ou des communautés qui sont dans ces provinces en premier lieu, mais aussi les individus ici des groupes désarmés au niveau de ces provinces. C'est comme ça que nous allons les aider à travers les infrastructures socio-économiques de base, la construction des écoles dans ces zones, la construction des centres de santé, des addictions d'eau, mais aussi à travers un paquet d'appuis socio-économiques, notamment à travers les travaux de haute intensité de la main d'œuvre et les activités génératrices de revenus et l'encadrement psychosocial.
Et quelle sera la particularité du projet de stabilisation de l'Est par rapport aux autres projets antérieurs?
Alors, la particularité est que nous allons travailler directement, appuyer les communautés qui sont ici, des communautés vulnérables dans ces zones, et elles-mêmes vont arriver à choisir leur propre projet, leur propre activité à mettre en place, et le projet va les appuyer. On ne veut pas imposer, on ne veut pas donner le projet, mais les mêmes, les communautés, les entités territoriales décentralisées, les autorités locales au niveau de la province, ils choisissent, voici l'activité que nous voulons pour la communauté et pour les besoins locaux de la communauté.
Dans quel domaine précis intervenez-vous?
Et le projet est vraiment dans le cadre de la stabilisation et la paix et la sécurité.
Et alors, comme nous sommes dans une région en proie à la guerre, est-ce qu'il n'y a pas de contraintes qui risquent de compromettre l'aboutissement heureux du projet?
C'est ça le problème. Effectivement, le projet sera mis en œuvre dans un contexte de sécurité. Il y a ces problèmes dans la zone. C'est là qu'on devra interpeller tout le monde, notamment les autorités, la communauté locale, que chacun sensibilise à son niveau, les frères et les amis qui sont dans les zones, qui sont dans la forêt, pour qu'ils fassent la paix, qu'ils quittent la forêt, qu'ils viennent intégrer le processus PDDRCS, ceux qui veulent rentrer dans la communauté pour qu'ils bénéficient des actions de développement que le projet va amener.
Comme tout projet, elle a une vie. Le démarrage, c'est quand? Et ça prend fait quand?
Le projet probablement démarre en janvier 2023 et le projet a une durée de 7 ans pour son exécution. Et le projet a 250 millions de dollars avec 5 composantes.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de ce journal, le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo. Manya Mubonge s'entretenait à partir de Bukavu au Sud Kivu avec Jean Kassami. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.